Stéphane Paquin, je suis professeur à l'ENAP. Le titre, Comment vit-on dans les marges de l'Empire, je me suis dit que c'est un thème qui sied bien à une conférence organisée par les gens de l'UQAM pour faire écho à ce que dit Dorval ce matin. Donc la question globale, c'est en fait, je vais le mettre, qui gagne quand tout le monde perd? Quand je regarde les résultats de certains discours, de certains sondages, on a l'impression qu'à la fois les Mexicains, les Américains et les Canadiens ont perdu dans la ligne. C'est assez surprenant. Je vais vous donner une expérience qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps. Le consulat des États-Unis, dont je vois le représentant ici, m'ont invité à aller rencontrer des spécialistes américains sur les questions commerciales. Et ils m'avaient envoyé dans le centre de gravité de l'Empire américain, c'est-à-dire le département du commerce, où j'ai rencontré une dame qui devait faire à peu près 5 pieds 2, qui était très sympathique, mais qui était la personne responsable de la gouvernance de l'accord de libre-échange canado-américain. Et j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je l'ai appelée Mme Alena. Elle m'avait dit qu'elle recevait 300 menaces de mort par jour de la part des États-Unis, souvent par courriel ou par lettre. Et je me dis, globalement, qu'est-ce qu'on vous reproche? Elle dit, on a fait un accord avec Socialist Canada and Corrupted Mexico. Fondamentalement, c'est le seul problème. Et après, on a passé une réunion d'à peu près une heure et demie où elle nous a expliqué avec nombreux détails tous les problèmes qu'il y avait dans le commerce canado-américain. Mais globalement, en lui posant la question, j'ai réalisé que fondamentalement, pour les Américains, c'est plus les relations commerciales avec le Mexique qui semblent poser problème. Dans le fond, on ignore un peu le Canada dans l'équation. Mais sachez qu'Obama, la dernière campagne présidentielle, avait promis de renégocier l'ALENA dans un débat présidentiel. C'était le cas de Bill Clinton aussi. Et le sentiment général semble être que, dans le fond, les Américains ont perdu la bataille du libre-échange nord-américain. Parce qu'ils connaissent, bien sûr, un déficit commercial extrêmement élevé. Au Canada, je vais aller tout de suite au sondage. Le sondage DG Marketing de 2004 posait la question, est-ce que les Québécois ont gagné la bataille du libre-échange? La question était, à qui le libre-échange a surtout profité? 64 % des Québécois disent que c'est les Américains. Seulement 18 % pensent que c'est les Québécois qui ont surtout profité du libre-échange. Si on additionne à ça qu'en 1992, le Parti conservateur du Canada a fait disparaître de la carte électorale, c'est la plus grosse défaite électorale de l'histoire et qu'une bonne partie de la défaite s'explique fort probablement par les négociations canado-américaines, plus les scandales de corruption, plus, bien sûr, l'échec de l'accord du Lac-Mitch, mais les négociations avec les États-Unis étaient très sensibles, plus au Canada anglophone, il est vrai, qu'au Québec. Et rappelez-vous aussi du slogan électoral de John Turner en 1988, qui effaçait la frontière entre le Canada et les États-Unis, qui parlait, si on négociait un accord avec les États-Unis, de la fin du Canada. Donc, question, qui gagne quand tout le monde perd? Je me posais la question, regardant le Code du Québec, plus précisément, parce que c'est le thème de la présentation d'aujourd'hui. Donc, a-t-on perdu la bataille du libre-échange? Le libre-échange est-il responsable du chômage au Québec? De la précarisation du travail, des coupures massives dans la fonction publique, de la fin des programmes sociaux? Est-ce que ça ne profitait qu'aux élites? Alors, vous serez peut-être étonné ou pas de constater que je suis presque complètement en désaccord avec la présentation de Nathalie Guy. Alors, je commence. Le Québec est une société hyper mondialisée. Si on comparait le Québec aux pays indépendants de la planète, on ferait partie des 15 pays au monde les plus internationalisés qui soient. On produit deux fois plus que la taille de notre économie, donc il faut exporter nos surplus pour juste maintenir notre niveau de richesse. Les exportations au Québec correspondent à 26 % de notre PIB, 34 % pour nos importations. Et si on ajoute le commerce interprovincial canadien, donc si on pense que le Québec est un pays souverain et qu'on exporte en Ontario, c'est 46 % de notre PIB contre 55 % pour les importations. Donc, vous allez quand même noter qu'on a un déficit commercial de 8,3 % de notre PIB. C'est à peu près 30 milliards de dollars par année. C'est gigantesque. Et en soi, à cause de ça, on pourrait dire que la situation économique du Québec est précaire et qu'elle se détériore et que c'est très important. On va voir plus tard si c'est attribuable ou pas à l'ALENA. 1,1 million d'emplois dépendent de nos exportations, 30 % des emplois totaux, 73 % des emplois manufacturiers. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins, mais ceux qui restent dépendent énormément des marchés étrangers. Et les exportations vers les États-Unis représentent 70 % des exportations totales du Québec. Commerce Québec-États-Unis. Les exportations vers les États-Unis, c'est 42 milliards en 92 et c'est 61 milliards en 2000. Ça, c'est les très bonnes années. Donc, les premières années de l'accord de libre-échange avec les États-Unis ont été extrêmement profitables aux exportations québécoises. De nos jours, les États-Unis consomment en 50 jours ce que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et la Chine consomment ensemble en une année. C'est pour vous montrer l'impact des exportations vers les États-Unis. Le Québec exporte 6 fois plus dans le seul État de New York qu'en France ou qu'en Chine, 10 fois plus qu'au Mexique ou en Espagne. Donc, c'est extrêmement important. Je vois qu'il y en a qui notent frénétiquement. Je n'ai pas de problème à laisser mon PowerPoint disponible. S'il y a un site web quelque part, là, vous pourrez... Le Québec, et ça c'est très important, est en déficit avec tous ses principaux partenaires commerciaux, sauf un seul, les États-Unis. Donc, je le reprends, c'est super important. On est en déficit commercial avec tous nos principaux partenaires commerciaux, sauf un seul, les États-Unis. Et avec les États-Unis, le surplus est énorme, presque 40 milliards de dollars par année de surplus commerciaux. Et donc, ça représente 46 % du budget annuel du gouvernement du Québec de génie en 2013. 1993, en fait, c'est en 2014. Désolé de la coquille. Donc, nos surplus d'exportation correspondent à 46 % du budget du gouvernement du Québec. Alors là, vous avez la tendance des exportations globales du Québec depuis les années de 81 à 2000. La ligne jaune, c'est notre déficit commercial. Quand vous regardez, dans les bonnes années de l'ALENA, on a un beau surplus et depuis le début des années 2000, on est en train de vivre une véritable descente aux enfers qui est pour moi la principale préoccupation économique au Québec, notamment parce qu'on importe énormément d'énergie et de pétrole. Le pétrole à lui seul explique 50 % de notre déficit commercial. Donc, l'électrification des transports, ça fait du sens. Et driller Anticosti fait du sens. Je sais que c'est pas très politiquement correct, mais c'est comme ça. Donc, ça, c'est notre déficit commercial si on ajoute les provinces canadiennes, moins 30 milliards. Je vais juste montrer cette donnée-là qui est importante. C'est l'évolution des exportations canadiennes vers les États-Unis. Or, il y a trois chiffres ici, on voit pas très bien. Ça, c'est global. Donc, on voit que la tendance n'est quand même pas si mal. Ça, c'est l'énergie, essentiellement les sables bitumineux, puis un peu d'hydroélectricité et du gaz. Mais regardez, depuis 2000, hors énergie, la tendance est légèrement à la baisse. Donc, ça pose un vrai problème. Les années 2000 ont été plus difficiles pour les exportations canadiennes vers les États-Unis. On peut imaginer pourquoi, on l'a vu tout à l'heure. Si on regarde la tendance par province, et ça, c'est le seul graphique de la présentation que j'ai fait, je m'étais juré de vous dire que tous mes graphiques viennent de documentation gouvernementale, et donc je vole du droit d'auteur absolument, donc je vais le mettre en bibliographie à la fin. Là, vous regardez, les effets d'ALENA par province sont différenciés. Celui qui profite le plus, on peut s'en douter, c'est l'Alberta, qui a un surplus commercial. Ici, c'est le trade balance, donc c'est un surplus commercial. Le Québec est deuxième. L'Ontario vit une situation extrêmement difficile, tout comme le Canada atlantique. En fait, le plus grand changement macroéconomique au Canada dans les dernières années, c'est plus le déclin de l'Ontario que le déclin du Québec. Ici, c'est les exportations bilatérales Québec-États-Unis. Vous voyez que depuis qu'on prend la mesure en 1996, on est toujours en surplus commerciaux extrêmement important. On est rendu, bon, la dernière mesure 2008, c'est 51 milliards. 51 milliards, c'est quand même 50 stades olympiques par année. 100 Colisée de Québec par année. Je vais vous montrer les chiffres pour montrer notre dépendance extrême vers les États-Unis. C'est pour les exportations, 71% de nos exportations. Vous voyez que les autres, c'est quand même marginal. Le Mexique est 9e. Ici, c'est pour les importations. Vous pourrez le regarder sur le PowerPoint, je ne vais pas les commenter. L'ALENA et l'emploi. Le Québec est habitué, a été habitué dans le passé à connaître des taux de chômage dans les deux chiffres. Depuis 1993, le Québec n'a jamais connu un taux de chômage dans les deux chiffres. Même après la récession de 2008-2009, le taux de chômage au Québec est à 7,5 %. C'est très faible. si on compare avec les taux du milieu des années 80 ou des années 70. C'est très faible. Entre 87 et 2007, la machine économique québécoise a créé exactement 812 000 emplois, selon Statistique Canada. Le taux d'emploi au Québec est aujourd'hui à 60,4%. C'est le nombre de personnes entre 15 et 65 ans qui ont réellement un emploi. On n'est pas à un niveau record, mais il y a 4 ans, on était à un niveau record de tous les temps. Il n'y avait jamais autant de Québécois qui avaient un emploi qu'il y a 4 ans. Donc, ce n'est pas nécessairement dû seulement à l'ALENA, mais comme vous voyez, on a un surplus commercial seulement avec les États-Unis. Il y a un lien assez important à faire. Avant la récession, le taux de chômage était moins, légèrement au-dessus des 6 %. Aujourd'hui, il était à 7,5. Donc, la situation est quand même pas si mal. Et ces emplois-là ont été créés dans un contexte où on a réduit la taille des effectifs publics au Québec de 1994 jusqu'à peu près 2000-2001. Il y a une baisse importante, parce que tous les emplois publics, fédéraux, provinciaux, municipaux, sociétés d'État. C'est une compilation qui a été faite par l'Observatoire d'administration publique de l'ENA. Donc, on a créé 812 000 emplois pendant qu'on réduisait la taille de l'administration publique jusqu'à 2001. Donc, c'est des emplois essentiellement dans le secteur privé. Est-ce que le travail est précaire? On peut en débattre longtemps. J'ai mis seulement quelques chiffres. Mais effectivement, il y a des transformations majeures du marché du travail au Québec. La rémunération hebdomadaire moyenne au Canada est passée de 715 $ en 1987 à 757 $ en 2007 en dollars constants, donc en chiffres comparables. Ça veut donc dire qu'on a légèrement amélioré la rémunération moyenne. C'est peu, mais on n'a pas perdu de rémunération moyenne. Ensuite, en 1987, la semaine de travail moyenne était de 32 h 5 minutes au Québec. En 2007, elle était de 31 h 42 minutes, une légère diminution. Donc, on n'a pas connu la tendance américaine où les gens doivent avoir 2 ou 3 emplois pour survivre. 77% des emplois créés sur 20 ans sont à temps plein. Ensuite, la fin des programmes sociaux. Alors ça, c'est plus polémique. Selon l'OCDE, la dépense publique pour les programmes sociaux du Canada est passée de 18,1% en 1990 à 18,1% en 2012. Donc, pas de changement réel, sauf qu'on est tombé à un creux de 16,9% en 2000. Donc, il est vrai que le gouvernement libéral du Canada, fort probablement sur les données canadiennes, les coupures au fédéral ont dû avoir un impact majeur, plus les coupures dans les autres provinces. Cela étant dit, le Québec a suivi la tendance inverse. Le Québec, on a mis pendant la période un système de garderie publique, une politique d'assurance médicaments, les congés parentaux. Tout ça coûte 7 milliards de dollars au Trésor public. Ça correspond à 10 % du budget actuel du gouvernement du Québec. On parle maintenant d'une caisse autonomie, réforme des retraites, et on a accordé les plus importantes baisses d'impôts de l'histoire à Ottawa et à Québec pendant la même période. Le libre-échange a-t-il profité à l'élite? Bien évidemment. Le premier 1%, pardon, je viens de m'essouffler moi-même. Le premier 1% au Canada, les chiffres que vous avez montrés sont exacts. Nicolas Zorn de l'Institut du Nouveau Monde a fait plusieurs études là-dessus. On voit vraiment un décollage du premier 1%. Cela dit, c'est une tendance occidentale, pas seulement canadienne, mais québécoise. Et la tendance au Québec est moins prononcée. Mais regardez, l'indicateur qui est peut-être plus important, c'est l'indice de Gini avant et après impôts et transferts. Au milieu des années 90, l'année de référence, c'est 94, et à la fin des années 2000, donc on est en 2007-2008 à peu près. Alors, j'ai mis Canada en haut, Québec en bas. Au milieu des années 90, l'indice de Gini avant impôts et transferts est à 4,44. Il va aller, à la fin des années 2000, à 4,49. C'est presque rien comme différence. Ensuite, une fois que les transferts et l'impôt, on diminue les inégalités de façon très importante, de façon plus importante au Québec que dans le reste du Canada. Cette diminution-là est moins importante de nos jours. Donc oui, il y a une augmentation des inégalités, on le voit ici. Ça s'explique pas par les revenus qui ont changé, on le voit ici. C'est presque pareil. On l'explique par les baisses d'impôts qui ont été accordées par le gouvernement dans les dernières années. Donc, c'est une situation qui me semble être auto-infligée plutôt que liée au commerce international. Mais encore une fois, on peut en discuter longtemps. Donc, conclusion, pas assez de libre-échange. Si on avait refusé l'ALENA et l'accord de libre-échange avec les États-Unis, notre déficit commercial serait à quoi? 40 milliards? 50 milliards par année? Évidemment, on aurait pris d'autres décisions, mais on peut penser que la situation économique aurait été beaucoup plus difficile. A-t-on perdu nos centres de décision économique? Là, je fais référence à une étude de M. Vaillancourt. 47% des entreprises au Québec étaient détenues par des francophones en 1960 contre 67% en 2003. Donc, on a progressé pour nos centres de décision. Est-ce qu'on a trop de libre-échange avec les États-Unis? Je vais donner l'exemple de Bombardier à Plattsburgh. Ce sont des très bons emplois. Dans la région de Plattsburgh, qui se présente maintenant comme Montreal US Suburb, 300 entreprises québécoises sont maintenant situées là, justement à cause des effets du protectionnisme américain. Buy America, Buy American Act, notamment. Donc, sommes-nous trop dépendants? Fort probablement. Les exportations américaines vers le Canada ne représentent que 2% de leur PIB. Mais par contre, le Canada est le premier partenaire commercial de 36 États américains. Donc, c'est important, notamment d'en faire prendre conscience les gouverneurs américains. Et je vais terminer sur deux cartes. La première, c'est la population américaine. C'est la population canadienne projetée aux États-Unis. Donc, les États-Unis, vous voyez, c'est 10 Canada. Et ensuite, autre carte qui a été faite par Earl Fry, on compare les pays, les États américains des pays indépendants. Donc, les 50 premiers États américains se classeraient dans les 80 premiers pays de la planète en termes de PIB en 2010. Donc, voilà. Merci.